9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. On est le 8 mai, jour anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais les Russes le fêtent le 9 mai et tout le monde s'attend demain à un coup d'éclat de Vladimir Poutine. Jean Lopez, le grand historien de la guerre sur le front de l'Est, est en direct avec nous ce matin. Je recevrai ensuite Jean Guilaine, professeur émérite au Collège de France, qui sort un livre palpitant sur la condition des femmes au Néolithique. Quand l'humanité a inventé l'agriculture et s'est sédentarisée, alors qu'est-ce que ça a changé pour les femmes? Il va nous le dire. Et l'on terminera l'émission avec Irène Grenet qui publie la publicité dans Le Monde Nouveau sur la pub à l'ère du numérique. Elle aussi, elle a bien changé.
Europe 1.
Jean Lopez, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de sortir le premier MOOC d'histoire militaire, un livre-magazine qui s'intitule « De la guerre ». Il est édité chez Perrin, le numéro 2 vient de paraître en librairie. Et puis vous êtes celui à qui l'on doit, entre autres, Barbarossa 1941, la guerre absolue, avec l'historien ukrainien Lacha Otremezouri, et Kharkov 1942, Kharkov qu'on appelle aujourd'hui Kharkiv. Pourquoi les Russes fêtent-ils la fin de la Seconde Guerre mondiale le 9 mai, nous le 8 mai, c'est-à-dire aujourd'hui, alors que c'est le 7 mai 1945 que l'Allemagne a capitulé à Reims.
Donc 7 mai 45, la capitulation des Allemands à Reims est parfaitement valable juridiquement. Staline veut que l'on réédite la cérémonie à Berlin, c'est-à-dire en territoire conquis par l'armée rouge, en disant expressément que c'est pour marquer le fait que le principal vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'Union soviétique. On est déjà dans la problématique actuelle. Donc, à Berlin, on réédite la cérémonie. C'est le maréchal Joukov qui la préside. Et l'acte de capitulation est signé par le Feldmarschall Keitel un peu après minuit, heure de Moscou.
Ah oui, c'est le décalage horaire qui
fait
la différence.
C'est le décalage horaire. Et donc, un peu après 23h, heure de l'Europe occidentale. Donc, au départ, c'est une question simplement horaire. En réalité, ça recouvre quelque chose de beaucoup plus profond. La preuve, c'est qu'un des premiers actes du nouveau pouvoir ukrainien, c'était il y a quelques années, a été de ne plus fêter le 9 mai, mais de se rallier au 8 mai, de ne plus accepter que l'idée soviétique et russe, que la guerre commence le 22 juin 1941, mais qu'elle commence le 1er septembre 1939. Ça a été de ne plus porter le fameux petit ruban de Saint-Georges orange et noir, mais de porter le coquelicot rouge comme les anglo-saxons. Il y a donc une volonté, si vous voulez, de la part de l'Union soviétique et aujourd'hui de son héritière, la Russie de Vladimir Poutine, de raconter une histoire particulière. La Russie ne parle pas de Seconde Guerre mondiale, ça ne la concerne pas, elle estime qu'elle est restée neutre entre septembre 39 et le 22 juin 41. Pour elle, la guerre commence sous le nom de Grande Guerre patriotique le 22 juin 1941. C'est la raison pour laquelle le 9 mai a été conservé volontairement dans sa différence avec le 8 mai. Ça va donc plus loin qu'une simple question de décalage horaire.
Et c'est donc encore aujourd'hui une date très importante, ce qui fait que tout le monde s'attend à un coup d'éclat de Vladimir Poutine demain.
Depuis 1965, c'est-à-dire depuis que Léonid Brejnev en a fait une journée fériée et chômée, c'est la principale date du calendrier civique russe, soviétique autrefois, russe aujourd'hui. À l'époque de Brejnev, ça a complètement éclipsé novembre, la fête du 7 novembre, même celle du 1er mai, c'est passé au second rôle. L'Union soviétique avait besoin de refonder sa légitimité, donc on faisait moins référence à la révolution d'octobre. Ça parlait moins aux gens, parce que c'était déjà plus loin dans le passé. Et le 9 mai est véritablement devenu la fête la plus importante, et ça n'a pas cessé de monter en puissance depuis 1965. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait à une échelle extraordinaire. Ça concerne, il y a des défilés militaires dans 70 villes de la Russie. Ce sont des centaines de milliers de personnes. Et ça, c'est la grande nouveauté qui est apparue en 2015, lorsqu'on a vu Poutine prendre la tête du cortège et se mettre à la tête de ce que les Russes appellent le régiment immortel. C'est la grande innovation de 2012-2015, c'est que tout à coup, chaque citoyen russe qui veut participer au défilé, il va avec une petite pancarte sur lesquels il a fixé le portrait de son grand-père ou de son arrière-grand-père ou de son père ou de sa mère, combattants de la Grande Guerre patriotique. Il y a une sorte de filiation qui se fait entre cette guerre soviétique et l'existence du peuple russe aujourd'hui. Évidemment, du même coup, ça permet d'exclure toutes les autres anciennes républiques soviétiques, dont l'Ukraine, qui a participé, au même titre que la Russie, à la Grande Guerre patriotique. Mais là, dans ce régiment immortel, on a une filiation 100% russe.
Jean Lepez, parmi ce qu'imaginent les Occidentaux pour demain, qu'est-ce que Vladimir Poutine pourrait faire? Il y a ceci, déclarer la guerre à l'Ukraine et mobilisation générale. Qu'est-ce que ça voudrait dire?
Enfin, ce serait une décision terrible parce qu'il n'y a pas eu de déclaration de guerre de l'Union soviétique depuis le 8 août 1945, lorsqu'il déclare la guerre au Japon, hein, donc à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il n'y a pas eu de mobilisation générale déclarée depuis le 22 juin 1941, date de l'agression nazie contre l'Union soviétique. On quitte la rhétorique de l'opération militaire spéciale qui est de mise depuis le 24 février pour entrer dans une véritable guerre. Je ne suis pas russe, mais j'imagine que dans l'esprit des Russes, si marqué par la Seconde Guerre mondiale, ça va faire l'effet d'un séisme quand même.
On fait une pause, Jean Lepez, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Jean Lepez, le grand historien de la Seconde Guerre mondiale sur le front de l'Est, est avec nous en direct ce matin. Jean Lepez, Poutine parle de dénazifier l'Ukraine. Nous comparons Poutine à Hitler. On a l'impression qu'on n'en sort pas de la Seconde Guerre mondiale. C'est notre référence et la seule pratiquement.
C'est vrai qu'elle s'impose à nous depuis 1945 sans faiblir. Il faut en même temps se rendre compte, quand on a pris la mesure de l'immensité de l'événement, du péril mortel dans lequel se sont retrouvés et la démocratie et le régime soviétique, la nature très particulière de l'ennemi qui était au centre à l'époque, à savoir le régime nazi, on voit qu'on avait affaire à une guerre où il n'était pas très difficile de se situer en termes de bien et de mal. Même si, quand on passe du côté de l'Asie, les choses ne sont pas aussi simples. Et même si l'on va en Ukraine en 1941, les choses ne sont pas aussi simples. Parce que pour nous, occidentaux, c'était vraiment un combat du bien et du mal. Vu de Moscou et de Staline, c'était aussi un combat du bien et du mal. Mais pour toutes les petites nations qui se trouvaient opprimées, je pense par exemple aux pays colonisés, le nazisme, par exemple, vu du monde arabe par exemple, c'est peut-être pas le mal absolu. De la même façon pour les Ukrainiens qui estiment être opprimés par l'Union soviétique, l'arrivée des troupes allemandes, c'est peut-être pas le mal absolu, c'est peut-être au contraire la libération. Il y a quelque chose que nous, occidentaux, avons du mal à percevoir. Et les soviétiques sont dans une position, et les Russes aujourd'hui, symétriques par rapport à nous. C'est un combat contre le bien et le mal. En réalité, dans les interstices, comme je le répète, c'est pas aussi simple, ce manichéisme s'efface.
Alors, il est impossible évidemment de comparer la guerre telle qu'elle se déroule aujourd'hui en Ukraine avec le champ de bataille qui était l'Ukraine il y a 80 ans, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, Jean Lepez. Mais vous, en tant qu'historien et notamment en spécialiste de l'histoire militaire, est-ce qu'il y a des similitudes tout de même que vous pouvez constater?
C'est difficile de le dire dans la mesure où en 1943, par exemple, il y a environ 5,5 millions de combattants qui s'affrontent. On est évidemment très très loin des 160 000 Russes et des 3, 4, peut-être 500 000 Ukrainiens qui sont en face. Si on gratte un peu, on va retrouver un certain nombre de similitudes. Par exemple, la difficulté qu'ont les Russes à monter des opérations sophistiquées. Je pense à l'échec de leur opération aéroportée sur l'aéroport de Lviv le premier jour de l'invasion. Je pense à la destruction de leurs colonnes blindées avancées, des situations comme ça, ils en ont vécu par dizaines face à la Wehrmacht qui systématiquement cassait toujours leurs pointes avancées. Et puis récemment, au moment de la bataille de Marioupol, on a vu un certain nombre de civils ukrainiens passer par des camps de filtration. Et ça, les camps de filtration, c'est quelque chose qui est apparu en 1939 pendant la guerre que Staline a déclarée à la Finlande et qui permettait de filtrer les citoyens, donc en pensant a priori que tout le monde pouvait être un espion à la solde de l'ennemi avec lequel il a été en contact. Donc on vérifiait le pédigré des gens, et si le NKVD, qui était le FSB de l'époque, décidait que cette personne était douteuse, à ce moment-là, elle pouvait être déférée devant le parquet soviétique et inculpée d'activité antisoviétique. Donc là, aujourd'hui, on a on retrouve ce système des camps de filtration. C'est assez étonnant, mais enfin, puisqu'on a affaire à une guerre politique avant toute chose. Hein, l'ennemi, c'est le régime politique à Kiev. Donc tous ceux qui sont considérés comme étant des séides du régime de Kiev vont être débusqués et mis à l'écart.
Dernière question, Jean Lopez. Il y avait beaucoup de femmes dans les rangs de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait même des femmes pilotes de chasse. On n'en voit pas, alors, dans l'armée russe, d'une part, mais enfin, bon, c'est l'armée, mais...
On ne voit pas également du côté ukrainien.
Des Ukrainiens.
Alors, c'est assez curieux parce que je dirais que c'est presque un signe de modernité, la présence des femmes dans les armées. Les armées occidentales, dont on peut penser qu'elles sont les plus modernes, incorporent en moyenne 20% de femmes. Alors, c'est vrai qu'elles sont rarissimes dans les unités de combat, mais elles sont absolument omniprésentes dans tout ce qui est soutien, et notamment la logistique. On n'en voit pas côté russe, on n'en voit pas non plus côté ukrainien. Peut-être est-ce un signe d'archaïsme, précisément, mais en même temps, du côté russe, on n'a pas beaucoup d'images qui nous permettraient de savoir... Ceci dit, les chiffres que j'ai en tête ne donnent qu'une faible féminisation des armées en Russie. Quant au côté ukrainien, vraiment, alors là, on en voit très très peu.
Merci Jean Lopez d'avoir été en direct ce matin avec nous. Je renvoie à votre premier MOOC d'histoire militaire. Hein. Un MOOC, c'est un livre-magazine. Il s'intitule « De la guerre ». Il est édité chez Perrin. Le numéro 2 vient de paraître en librairie. Il est justement consacré aux femmes dans la guerre.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Jean Guilaine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, vous avez été professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Civilisation de l'Europe au Néolithique et à l'âge du bronze. Le Néolithique, vous avez dit que c'était la seconde naissance de l'homme. Je rappelle que c'est quand il se sédentarise et qu'il invente l'agriculture. Mais c'est aussi la seconde naissance de la femme. Vous publiez en effet « Femmes d'hier » sur les femmes au Néolithique chez Odile Jacob, un livre de 400 pages illustré. Alors le Néolithique, c'est cette période fascinante entre les chasseurs-cueilleurs et l'Antiquité, entre les cavernes et le village d'Astérix. Ça dure plusieurs milliers d'années, ça change complètement la face du monde. Et les femmes y occupent quelle place ?
Alors, les femmes peuvent y occuper des places fort diverses, en réalité. Il n'y a pas une femme type du néolithique. Il y a des femmes au néolithique. Certaines peuvent occuper, dans certaines cultures, des positions sociales relativement importante, d'autres peuvent être des subalternes totales.
Est-ce qu'il y a un lien particulier qui se tisse à l'époque entre les mères et leurs enfants ? Car les enfants sont beaucoup plus nombreux qu'au temps des chasseurs-cueilleurs. Les chasseurs-cueilleurs étaient des nomades, on ne pouvait pas se déplacer avec trop d'enfants qui ne savaient pas encore marcher, il fallait espacer les naissances. Une fois qu'on se sédentarise, qu'on cultive la terre, la famille peut s'agrandir. Est-ce que le lien entre la mère et ses enfants change ?
Alors, évidemment, on fait davantage d'enfants et les mères, au départ, sont en quelque sorte, leur rôle consiste évidemment à s'occuper des enfants. Alors, tout au moins pour les plus jeunes, c'est pas ? Et ce que nous dit l'iconographie du néolithique, parce que cet ouvrage il est essentiellement fondé sur l'iconographie, c'est-à-dire les statuettes, les stèles, l'art rupestre, également évidemment sur les sépultures et ce que l'ADN peut en dire aujourd'hui. Eh bien, on a des représentations de femmes qui nourrissent leurs enfants, qui les bercent, etc. Et d'ailleurs, ces représentations de femmes qui tiennent les enfants dans les bras, ces représentations, on les connaît surtout pour les phases les plus récentes du néolithique, c'est-à-dire celles au cours desquelles la domination masculine semble être plus forte, plus accusée. Et donc, ces femmes, elles sont d'une certaine façon confinées dans ce rôle de mère, dans ce rôle de, en quelque sorte, de personne chargée de s'occuper des enfants. Autrement dit, elles sont un peu confinées dans le, la vie domestique, dans le gynécée, d'une certaine façon, vous voyez.
Ça voudrait dire que la division du travail entre les hommes et les femmes, les hommes qui vont dehors, qui produisent, et les femmes qui élèvent les enfants, ça daterait de là, du néolithique ?
Non, c'est peut-être des choses plus, qui sont plus anciennes. Mais on a dit souvent que l'homme chassait et que la femme, au paléolithique, et que la femme était plutôt la personne qui cueillait, qui ramassait des plantes sauvages. Et puis, à propos du néolithique, on a dit, bon, l'homme continue de chasser, il est sur l'extérieur, il va à la guerre, éventuellement il s'occupe du troupeau, au contraire la femme est stable, c'est pas, et donc elle s'occupe de fonctions plus domestiques, et elle peut s'occuper aussi d'agriculture. Mais effectivement, nous avons des représentations qui montrent que les femmes peuvent être agricultrices, bergères ou vachères, n'est-ce pas, apicultrices peut-être, etc. Mais ces rôles, est-ce que ces rôles sont féminins? Des femmes les accomplissent, ces rôles-là. Mais ça ne veut pas dire que ces rôles soient forcément féminins. Et en contrepoint, je dirais que la chasse est considérée comme une activité essentiellement masculine, mais rien n'empêche certaines femmes de chasser. Voyez ? Donc, il ne faut pas absolument établir une sorte de distinction binaire entre les rôles systématiques des hommes et les rôles systématiques des femmes.
Alors, par exemple, dans l'artisanat, il y a des femmes.
Dans l'artisanat, il y a des femmes. Et rien ne nous dit, notamment, que les femmes n'ont pas été effectivement celles qui ont modelé la plupart de ces figurines, de ces représentations, puisque la femme est censée vivre en milieu domestique, et ce milieu, il est dominé par la terre, par l'argile. Les parois des maisons sont en argile, mais le foyer est en argile. Les céramiques, très importantes au néolithique, n'est-ce pas, pour la cuisson ou pour la conservation des denrées, sont en argile. Les figurines sont en argile, et pour beaucoup, représentent des femmes. Donc, on pense qu'elles ont été à la base, notamment, de cet artisanat.
Donc l'artisanat, la terre, elles peuvent la cultiver, avez-vous dit, elles peuvent aussi garder les troupeaux.
On a même une représentation en Espagne où il y a une bête qui a été tuée, qui a été ficelée, mise sur une espèce de brancard ou de perche, et il est porté par deux individus, un homme et une femme.
Vous parlez de chasse, donc on continue de chasser au néolithique alors même qu'on élève des animaux près de chez
soi.
Oui,
mais en fait, la chasse au néolithique n'a pas peut-être la même signification qu'au paléolithique. C'est-à-dire qu'effectivement, la viande est produite essentiellement par des animaux domestiques. Mais la chasse continue et elle prend un aspect beaucoup plus symbolique, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que garder un troupeau, c'est quelque chose de tout à fait routinier, pas. Mais au contraire, chasser, se valoriser pour aller tuer des cerfs, tuer des sangliers, etc., c'est quand même quelque chose que l'homme a tendance à se réserver. En tout cas, dans les représentations de chasse que nous avons, et notamment en Espagne, l'art dit du Levant espagnol, en gros entre 5000 et 3000 avant notre ère, c'est un art de chasseur. C'est-à-dire que ces gens-là sont des agriculteurs, mais quand ils veulent se valoriser, c'est de chasse qu'ils parlent. Et vous savez ça, moi je l'ai connu encore dans mon village, quand j'étais tout jeune. Autrement dit, on pouvait avoir des vaches, on pouvait avoir un troupeau de brebis, mais les hommes parlent essentiellement d'aventures ou d'exploits de chasse. La chasse est un tremplin social, comme la guerre d'ailleurs, pour se valoriser. Ça permet au mâle de se construire un statut social.
On fait une pause, Jean-Guilaine, on se retrouve juste après, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Jean-Guilaine et il vient de publier « Femmes d'hier, images, mythes et réalités du féminin au néolithique ». Et essayons de rentrer dans la cuisine, ou plutôt dans ce qui faisait office de cuisine à l'époque. Est-ce que le foyer, est-ce qu'il est réservé aux femmes ?
Ben, il est considéré comme étant en quelque sorte un lieu féminin, mais dans la maison, l'homme vit également. On a par exemple des maisons où vous avez probablement vous avez le foyer, mais vous avez probablement l'endroit où se trouvait, où l'homme pouvait dormir, l'endroit où dormait la femme, ou plutôt les lieux, les espaces qui étaient plutôt masculins, plutôt féminins, voyez. Donc, si l'intérieur de la maison est essentiellement une affaire de femme, l'homme y a sa place, évidemment. Alors là, on pourrait d'ailleurs, un point qui est intéressant, on a une petite maquette qui provient de Thessalie en Grèce et qui est intéressante dans la mesure où elle représente une maison avec deux couples. Il y a d'une part le couple, je dirais, des anciens, peut-être le grand-père et la grand-mère, n'est-ce pas ? Et puis à côté, il y a un couple de la génération suivante, c'est-à-dire le fils ou la fille et le conjoint, n'est-ce pas ? Et les enfants. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que ce genre de maquette donne une idée de, en quelque sorte, à la fois de la composition sociale, mais du rôle essentiel des femmes. C'est-à-dire que la personne qui est représentée en plus grand volume, c'est la grand-mère, n'est-ce pas ? Le grand-père est un peu plus petit. Puis la génération suivante, on a un couple homme et femme plus petit, et ensuite les enfants. Vous voyez, un peu comme si la grand-mère, un peu la matrone, si je puis employer ce terme, était dans l'espace domestique, en quelque sorte, la personne dominante.
Comment sont-ils habillés ? Est-ce que les hommes et les femmes sont vêtus de la même manière, comme ils le seront au début du Moyen-Âge, par exemple ?
Alors, le problème, c'est que nous avons surtout des représentations. Dans les figurines, nous avons surtout des représentations féminines. Mais dans l'art du Levant espagnol, où nous avons toute une série de représentations féminines, avec des femmes qui sont habillées avec des jupes courtes, des jupes longues, il y a tout un éventail de vêtements. Les hommes qui sont chasseurs sont représentés de manière plus légère, si je puis dire, et probablement avec des vêtements plus légers. Alors, peut-être s'agissait-il de vêtements spécifiques pour la chasse. Il faut éviter, et je pense que c'est assez clair peut-être dans mon ouvrage, de créer des stéréotypes.
Même sur la guerre, dites-vous, ça peut être compliqué, car on a trouvé des dépouilles féminines sur lesquelles il y avait des poignards, par exemple.
Oui, alors en réalité, on a, à travers notamment les stèles de la fin du néolithique, une dichotomie sexuelle qui est bien marquée. C'est-à-dire l'homme, d'abord, il est représenté sur des stèles qui sont plus grandes que les femmes. Donc la domination masculine, on peut la lire à travers ce point de vue-là. L'homme est toujours représenté, les sexes ne sont jamais représentés. L'homme est représenté par des armes. Ça peut être des arcs, souvent et uniquement un poignard, mais parfois des haches, des hallebardes, etc. La femme, elle, n'a pas d'armes. Elle est exclue des armes. Elle est représentée essentiellement par des parures, donc elle est dans la séduction, mais également par, elle est topless en quelque sorte, par des seins, par la poitrine. Autrement dit, elle est dans l'anatomique, dans le biologique, je dirais dans l'intime, c'est-à-dire que l'homme, il est sur la chasse ou la guerre, il est sur l'extérieur, la femme, elle est dans l'intérieur, elle est dans l'intimité, d'une certaine façon. Mais, de temps en temps, ce tableau, qui a valeur générale, je pense, eh bien, il peut être discuté. De temps en temps, on a dans les sépultures des femmes qui sont enterrées avec un poignard, c'est-à-dire un objet qui est essentiellement masculin, qu'on retrouve essentiellement dans les tombes de guerriers ou d'hommes, tout simplement. Donc, on peut penser que ou ces femmes-là ont eu des fonctions masculines, ou qu'elles ont, à partir de certains mérites, elles ont mérité le poignard, c'est-à-dire elles ont mérité un marqueur masculin, là on peut faire diverses hypothèses.
Le néolithique, c'est aussi la naissance des religions. Qu'est-ce que l'on peut imaginer à propos des places que les femmes y occupaient ? Étaient-elles prêtresses ? Étaient-elles déesses uniquement ?
Alors, déesse, vous savez, je critique beaucoup l'idée des déesses néolithiques, des déesses mères, théorie qui a été en partie construite à partir des figurines. Vous savez, il y a des figurines qui ont de beaux fessiers, en quelque sorte, de gros seins. On a dit, voilà, c'est la femme qui procrée, c'est la fertilité, donc femme et terre, même combat, en quelque sorte. Mais on s'aperçoit que vous avez des figurines qui sont absolument plates. voyez. Autrement dit, si vous choisissez le modèle qui explique votre théorie, vous mettez de côté une partie de la documentation qui n'entre pas dans vos idées. Moi, je crois que les religions néolithiques étaient essentiellement des religions d'ancêtres. Alors, ancêtres peut-être masculins et féminins, bien entendu. C'est-à-dire que un groupe humain, pour légitimer son existence, a besoin d'une histoire. Et cette histoire, il l'a créée en s'inventant des ancêtres fondateurs, vrais ou mythiques d'ailleurs. C'est pas ? Et ces ancêtres, il les vénère à travers des cultes qui peuvent être domestiques, familiaux ou communautaires. Alors, il pouvait y avoir, dans les représentations féminines auxquelles on vouait un culte, il pouvait y avoir des ancêtres féminins, bien entendu. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans certaines cultures, effectivement, on voit le rôle joué par des femmes, qui semblent plus importants. Par exemple, à Malte. À Malte, vous avez des temples mégalithiques qui datent entre, en gros, 3005 et 2005 avant notre ère. Et là-dedans, il y a des statues, ce sont essentiellement des statues de femmes. Et il en est une, notamment, dans le temple Tarchin, qui est une statue qui a 3 mètres de haut, c'est-à-dire elle est plus haute que la taille humaine moyenne. Donc là, on peut penser qu'on est devant une sorte de mère, peut-être de déité féminine, vous voyez, mais on est à l'extrême fin du néolithique. On peut également, pour répondre à votre question, penser qu'effectivement certains cultes étaient opérés par des femmes. Il existe dans le sud de la péninsule ibérique, notamment une tombe à côté de Séville, la tombe de Montelirio à Valencia, qui est une tombe dans laquelle on a retrouvé une femme qui était vêtue d'une tunique faite par des milliers et des milliers de perles en coquillage. Cette femme devait être quelque prêtresse. Et d'ailleurs, elle est enterrée dans une tombe avec d'autres femmes, c'est pas ? Et qui pouvaient être des assistantes. Là, c'est de l'hypothèse, un petit peu, n'est-ce pas ? Ce qui est intéressant, c'est que ces femmes, leur corps est maculé de cinabre. Et ces femmes sont jeunes, elles ont entre 20 et 30 ans. Et on peut penser que ces femmes ont inhalé du cinabre dans le cadre de rituels divers, n'est-ce pas ? Le cinabre, c'est un poison, c'est du mercure, n'est-ce pas ? Et qu'elles sont mortes relativement jeunes, un peu victimes du rôle sacerdotal qu'elles avaient.
Jean Guilaine, on vous écouterait pendant des heures. Je renvoie donc à votre livre « Femmes d'hier, images, mythes et réalités du féminin néolithique ». On y voit toutes les figurines auxquelles vous avez fait allusion. Ça vient de paraître chez Odile Jacob. Et juste après une pause, on retrouvera une femme, justement, Irène Grenet. Elle vient de publier « La publicité dans le monde nouveau ». Et oui, on vit encore aujourd'hui dans un monde nouveau.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Irène Grenet.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous avez fait Normal Sup et l'ENA. Vous avez travaillé à la tête de la régie publicitaire de France Télévisions, ce qui n'était pas prévu. Et vous publiez aujourd'hui La publicité dans le monde nouveau. C'est une réflexion de fond sur l'évolution de la publicité à l'ère du numérique. C'est vrai que le monde a beaucoup changé depuis la publicité triomphante des années 70-80. C'était vraiment le siècle dernier. Au temps de la société de masse, au fond, c'est l'explication que vous donnez, une des explications.
Tout à fait. Non, mais la publicité triomphante a fait son temps. On est clairement dans une époque très différente. Pour moi, il y a plusieurs mouvements de fond qui sont à l'œuvre. Et c'est pour ça que la publicité, d'ailleurs, est un objet extrêmement intéressant à étudier, qu'on l'aime ou pas. Le premier mouvement, c'est peut-être le statut de la consommation. On a appris dans les années 60, et ça reste totalement vrai avec les études de Baudrillard, que la consommation, finalement, c'était identificatoire. C'était ce qui nous identifiait dans la société. L'automobile qu'on achète, les vacances qu'on se paye, c'est la façon dont on s'inscrit dans la société. Il y a une tendance de fond, c'est une tendance, ça reste vrai, mais qui est en train de changer cette dimension identificatoire. En gros, avant, on était beaucoup dans le « j'achète donc je suis », on devient un petit peu dans le « j'achète donc j'agis ». C'est la façon dont on voudrait que la consommation participe d'une action sur le monde. Pour caricaturer, avant, on avait une espèce de grand caddie dans lequel on mettait tous les objets auxquels on voulait ressembler, la crème de beauté, etc. Aujourd'hui, on pourrait, si on devait prendre une image, on pourrait prendre un petit panier en osier dans lequel on met les objets auxquels on voudrait que le monde ressemble. Et si on ne trouve pas ces objets, on ne les achète pas. Donc, c'est évidemment caricatural. Et à ça se heurtent des questions de pouvoir d'achat qui viennent évidemment percuter tout ça. La fin du mois, ça vient évidemment percuter. Donc ça, c'est la première chose qui a changé. C'est vraiment une évolution sur le statut lui-même de la consommation. Il y a une deuxième chose qui est évidemment importante, on y reviendra peut-être, c'est le statut du consommateur. Le consommateur, il s'est fondamentalement émancipé. Et là, le numérique, incontestablement, a constitué une révolution. Le numérique, c'est tout, il aplatit tout. Tout le monde est au même niveau. Avant, on a la publicité de masse, au même titre d'ailleurs que les médias de masse, qui s'impose visuellement dans la rue, sur les murs de nos villes, qui agace d'ailleurs beaucoup. Aujourd'hui, on n'est plus du tout. On est dans un écran digital dans lequel c'est une guerre de l'attention absolue. Il faut émerger, il faut. Et là, les armes pour cette guerre de l'attention, d'ailleurs, c'est les données personnelles. Donc, l'idée n'est plus du tout de raconter une belle histoire, comme encore une fois au moment de cette publicité triomphante. L'idée, c'est vraiment de toucher la bonne personne au bon moment. Et puis, je pense qu'il y a un dernier point très important qui est finalement, et c'est pour ça que la publicité est totalement passionnante, c'est qu'on a changé. Il y a une perte d'adhérence avec l'idée de progrès. La publicité, toute la publicité, elle est fondée sur l'idée finalement de cette Baudrillard, je recite encore parce que ça reste fondamental, il parlait d'une idéologie égalitaire du bien-être. On allait vers un mieux, la santé, le confort. Alors pour les détracteurs de la pub, c'était l'horreur, c'était le matérialisme. N'empêche qu'il y avait une trajectoire. Aujourd'hui, il y a un gros doute sur la capacité tout simplement de notre système productif à être viable sur le long terme. Et ça percute fondamentalement la publicité. Pour moi, c'est ça. Mais effectivement, on n'est plus dans le temps de la publicité triomphante.
Vous dites que dans ce livre qu'il ne s'agit plus de générer du rêve à partir d'un produit, mais de toucher au mieux, vous l'avez dit, un consommateur devenu objet de désir. C'est d'où le phénomène des influenceurs d'ailleurs, hein, parce qu'eux, ils savent où toucher le
tout
consommateur.
À fait. Tout à fait. L'idée, c'est plus de générer du rêve. Je pense que ces tendances que j'ai évoquées l'expliquent largement. Mais le numérique aussi, c'est le fait que le consommateur, ce que j'ai appelé le consommateur devenu sérieux, il ne peut plus finalement, c'est lui qui parle du produit ou du service. Il y a le célèbre publicitaire Ogilvy qui disait « le consommateur n'est pas un imbécile, c'est votre femme ». Il est devenu tellement pas un imbécile que maintenant c'est lui qui parle du produit, c'est lui qui parle du service. Donc évidemment, générer du rêve dans ces conditions, c'est compliqué. Ce qui compte, c'est la crédibilité. Et les influenceurs, absolument, c'est l'aboutissement de ça. Ce sont eux qui parlent du produit et la publicité, elle est presque hors sujet. Et puis il y a ce sujet qui est totalement fondamental, qui est que si, encore une fois, ce qui compte dans la consommation, c'est l'information sur l'origine, sur la traçabilité. À la limite, on devrait être dans une publicité informative. Mais une publicité informative, c'est un oxymore, ça ne fonctionne pas. La publicité, c'est de la poésie. Donc, effectivement, ça fait partie de ces évolutions que j'évoque.
Vous dites également que le consommateur est devenu le sujet du discours. Avant, c'était le produit qui était le sujet du discours. Et on ne peut pas servir le même discours à tous les consommateurs.
Tout à fait. Ça, c'est un point très important. Déjà, je pense qu'il y a un point de départ qu'on sait, mais qu'il faut rappeler. La publicité, c'est une transaction, c'est une trouvaille assez géniale d'ailleurs, hein, faut quand même le rappeler. Déjà en soi, c'est assez subversif de faire de la poésie pour parler d'un produit ou d'un service, donc ça c'est la base. Mais ce qui est assez génial aussi, ou en tout cas subversif, c'est que dans une transaction classique, si vous voulez, quand on achète du pain, l'objet qu'on achète, c'est le pain. Dans la publicité, l'objet qu'on achète, c'est l'homme. C'est le temps de cerveau disponible, disait Patrick Lelay. C'est l'homme en tant qu'il offre une audience à un annonceur. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez puissant, qui fait que le et qui d'ailleurs a été au fondement de toute une critique anti-pub pendant, et qui le reste pendant longtemps. Le consommateur qui devient sujet de discours, ce que vous évoquez, c'est un retournement de ça. Il se dit, c'est une révolte du consommateur qui se dit non, c'est moi qui parle. C'est moi. Effectivement, c'est permis par Internet. Hein, c'est ce qu'on appelle le earned media qui aujourd'hui, qui fait que les avis des consommateurs sont alors plus efficaces. Je n'en sais rien parce que les études sont compliquées sur ce sujet-là. Mais en tout cas, qui génère des ventes largement autant que ce discours de la publicité. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment voir ça comme une révolte, une émancipation du consommateur. Qu'on trouve que le mouvement est positif ou pas. Ce qui est sûr, c'est que ça a des conséquences sur la publicité.
Il nous reste quelques secondes, Irène Grenet. C'est vrai que la publicité est moins en vogue et on écrit moins sur la pub, on y réfléchit moins. Vous êtes là, le travail que vous venez de faire, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait un comme ça.
Mais justement, parce que absolument, il y a moins d'ouvrages sur la publicité. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'on pouvait encore attendre des choses de la publicité. Parce que, alors, ça nous mènerait très loin, mais l'idée de générer du désir, de générer du rêve dans une société qui, bon, rit encore quelquefois, rêve encore quelquefois, mais n'a pas forcément formulé complètement ce que j'appelle l'avenir écologique. Je pense que la publicité peut nous y aider. Bien sûr, c'est pas elle qui va créer ce discours, sinon ce serait du greenwashing, mais je pense qu'on peut encore attendre des choses de la publicité.
Votre livre s'intitule « La publicité dans le monde nouveau » avec une préface de Maurice Lévy et ça vient de paraître chez Odile Jacob. Merci Irène Grenet d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. C'est arrivé demain, se termine. On se retrouve samedi prochain à 9h. Dans un instant, ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos, animé aujourd'hui par Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri, qui est votre invité ?
Bonjour Frédéric, et bien notre invité, l'invité du grand rendez-vous ce matin sera Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. Il est candidat aux législatives du mois de juin sous les couleurs de La République En Marche. Avec lui, on parlera de la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron, des débuts du quinquennat, de l'état de la gauche aussi et notamment de son ancien parti, le Parti Socialiste. Je serai entouré pour l'interroger de Nicolas Barré des Échos et Mathieu Bocoté. À tout de suite.
Bonne émission.
Europe 1.